Fast and Curious, une émission proposée par des gens uniques pour des gens normaux, écrite, réalisée et enregistrée par Ashraf,
Nicolas,
Alicia,
Gabriel,
adolescents du CESAD, service d'éducation spéciale et de soins à domicile. Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral. Nous sommes quatre adolescents et adolescents du CESAD. Nous réalisons une émission radiophonique qui s'intitule Fast and Curious. Divers sujets seront abordés dans cette émission. Nous allons parler de la fast fashion, de Donald Trump et de ses futurs projets pour le Groenland, mais aussi de Marineland. Il y aura des chroniques, des interviews et des micro-trottoirs, mais aussi une programmation musicale. Mais tout d'abord, bonjour Nicolas.
Bonjour Ashraf.
Quel est le sujet de ta chronique?
Eh bien, moi, je vais vous parler des jeux vidéo qui naissent dans les laboratoires dans les années 50. Dans les années 70, ils sortent des laboratoires, c'est le début des bornes d'arcade. Dans les années 80, ils s'installent dans les salons, c'est le début des consoles de jeux, Sega et Nintendo. À la fin des années 90, Microsoft et Sony rentrent dans la course, aux consoles toujours plus puissantes. Dans les années 2000, les jeux vidéo arrivent sur les téléphones portables et deviennent ainsi accessibles au plus grand nombre. Aujourd'hui, ils sont le média le plus important en termes de quantité d'utilisateurs et de revenus générés. Plus de 3 milliards d'êtres humains jouent aux jeux vidéo. Les jeux vidéo du 21e siècle n'ont plus rien à voir avec les jeux vidéo du 20e siècle. Ils progressent à une vitesse folle, toujours plus grand, toujours plus proche de la réalité, toujours plus interactif. On peut interagir avec les personnes, éléments du décor, les véhicules. On peut décrire ses émotions, faire des choix qui vont orienter l'histoire. On y incarne des héros, des femmes, des enfants, des délinquants, des animaux et des robots. Les gens qui pensent que les jeux vidéo rendent violents sont naïfs. La violence est souvent multifactorielle. L'isolement, la dépression, les troubles psychiques sont souvent les causes du passage à l'acte. Pourtant, il est important que les jeux vidéo proposant certains contenus ne soient pas mis dans les mains des plus jeunes, comme pour un film, une série ou des livres. Il existe des recommandations d'âge. En Europe, cela s'appelle PEGI. On y inscrit l'âge recommandé juste à côté. C'est l'éducation des parents qui permet une bonne utilisation des jeux vidéo, ainsi qu'un regard critique sur les mondes qui y sont décrits. D'ailleurs, si les jeux vidéo rendent violents, il n'y aurait pas 3 milliards d'agresseurs ? Certains faits divers rappellent que cette absence d'éducation ou de surveillance peut avoir des conséquences dramatiques. On se souvient que des tueries ont été attribuées aux jeux vidéo assez rapidement. Cela a permis de trouver une explication facile. C'est humain, nous voulons avoir des explications quand il arrive quelque chose d'horrible. Une utilisation trop intensive peut avoir comme conséquence une crispation, des comportements addictifs, une désocialisation. C'est donc la quantité et la consommation excessive qui est la problématique, et non pas le média en lui-même. Un peu comme les crêpes au sucre, en petite quantité cela est bon, en grande quantité cela devient écœurant et indigeste.
Mais Nicolas, que pensent les gens des jeux vidéo?
Eh bien justement, on va écouter les personnes que j'ai interviewées en micro-trottoir. Je me présente, je m'appelle Nicolas, est-ce que vous accepteriez de répondre à quelques questions?
Oui, c'est d'accord.
Ces questions comportent les jeux vidéo, est-ce que vous pensez que les jeux vidéo rendent violents?
Alors moi je crois pas que les jeux vidéo rendent violents, parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui joue aux jeux vidéo, ça voudrait dire qu'il y aurait beaucoup de gens violents. Je crois que les gens violents ils le sont déjà avant de jouer aux jeux vidéo.
Est-ce que vous pensez que les jeux vidéo sont uniquement réservés pour les enfants, pour le plus jeune âge?
Non, moi parce que je suis un adulte et je joue aux jeux vidéo, donc je pense que ça peut s'adresser à tout âge. Après, pas tous les jeux vidéo sont faits pour les enfants. Il y en a qui sont faits pour les adultes, il y en a qui sont plutôt faits pour les adolescents, il y en a pour les jeunes enfants. Donc il faut respecter un petit peu les âges de chaque jeu vidéo, un petit peu comme les films ou les séries.
Et vous jouez à quel type de jeu vidéo?
Alors moi j'aime bien jouer avec mes enfants aux jeux de plateforme ou d'habileté, et on joue ensemble au général. Et moi j'aime bien les jeux aussi pour les adultes où il y a un peu plus de violence, où il faut un peu plus se bagarrer, mais ça je joue le soir quand mes enfants sont couchés.
Est-ce que vous pensez que les jeux vidéo rendent violents?
Alors c'est une bonne question, c'est vrai que je me suis posé la question, justement j'entends beaucoup les gens dire est-ce que ça les rend violents les jeunes, et j'avoue que je n'ai pas de réponse à cette question. Par contre, quand les jeunes ou certaines personnes, même des adultes, jouent consécutivement 8 à 12 heures d'affilée, ça peut rendre super nerveux.
Est-ce que vous pensez que les jeux vidéo sont réservés pour le plus jeune âge, pour les enfants?
Moi, je pensais jusqu'à il n'y a pas si longtemps que c'était vachement réservé soit pour les enfants, soit pour les adolescents, soit pour les jeunes adultes. Et en fait, il y a quelqu'un qui travaille avec moi, qui est un adulte maintenant, et qui m'a dit, mais en fait, les jeux vidéo, il y a beaucoup d'adultes qui y jouent, et ils ont vachement évolué depuis Mario Bros. Et finalement, d'après ce qu'il m'a expliqué, je me dis, ok, je comprends que des adultes aussi, effectivement, ils jouent aux jeux vidéo.
Est-ce que vous pensez que les jeux vidéo rendent violents ?
Le jeu vidéo lui-même, à mon avis, non, c'est pas le jeu vidéo qui rend violent. En revanche, parfois, lorsqu'on reste très longtemps à jouer à un jeu vidéo, qu'on ne réussit pas ce qu'on a entrepris, notamment pour certains jeux, une certaine frustration peut arriver, et là, on peut se mettre en colère. Mais rendre violent, non, je ne crois pas. Au contraire, ça me semble être un dérivatif à la violence plutôt qu'autre chose.
Est-ce que vous pensez que les jeux vidéo sont uniquement réservés pour les enfants ?
Bien sûr, il y a des catégories, il y a des jeux auxquels les enfants, heureusement, n'ont pas accès, mais il y a des jeux pour tous âges et pour toutes les envies. Parce que ça peut être des jeux de création, ça peut être des jeux joués en ligne avec d'autres joueurs ou contre d'autres joueurs. Donc tout est envisageable avec les jeux vidéo.
Vous avez déjà joué à des jeux vidéo ou jamais ?
J'avais découvert le jeu que tout le monde connaît, GTA San Andreas, qui m'avait beaucoup plu, parce que c'est une critique de la société américaine qui est absolument détonnante. À voir pour ceux qui s'intéressent les fausses pubs, parce qu'elles sont hallucinantes sur l'esprit américain. C'est ce qu'on vit d'ailleurs aujourd'hui avec Donald Trump.
En conclusion, beaucoup de personnes jouent aux jeux vidéo et ne sont pas violents dans leur vie de tous les jours.
Bonjour Gabriel, de quoi vas-tu nous parler ?
Eh bien bonjour Ashraf, je vais vous parler de la cause animale et notamment du Maryland d'Antibes, c'est un sujet qui me tient à cœur. Le plus grand zoo aquatique d'Europe a été forcé de fermer ses portes le 5 janvier 2025, après 55 ans d'existence. Le Maryland d'Antibes a été créé par Jean de la Poype et fut ouvert pour la première fois le 22 juin 1970. C'était plus de 425 000 visiteurs par an, même si petit à petit son taux de fréquentation a chuté. Il accueillait plus de 4000 spécimens sur 26 hectares, dont des requins, des pingouins, des morses, un ours polaire, des lions de mer, des otaries, etc. La loi de 2021 sur le bien-être animal interdira enfin à partir de décembre 2026 le spectacle et le maintien en captivité d'orques et de dauphins en France, et Maryland a été contraint de fermer. Il y a actuellement 12 dauphins et 2 orques, l'avenir des animaux qui restent sur le site est encore incertain. L'association One Voice, qui se bat pour le bien-être animal, essaye de trouver des solutions pour les dauphins et les 2 orques, qui s'appellent Wiki et Keijo. Elle a pensé à un sanctuaire en Nouvelle-Écosse pour les orques, un espace protégé de 40 hectares et de 18 mètres de profondeur. La question du sanctuaire se pose aussi pour les dauphins, mais tout reste en attente. Si ces projets se réalisent, orques et dauphins pourront enfin nager en ligne droite. Mais par manque de budget, le projet reste incertain. C'est presque ironique de voir l'un des plus grands prédateurs résumé à une bête de foire avec 3 spectacles par jour. Alors imaginez ce que ça fait comme nombre de représentations en un an alors que vous plaignez d'être exploité par un CDI trop chargé. Aimeriez-vous être enfermé pour le restant de votre vie dans 20 mètres carrés, d'être arraché à votre famille afin de divertir une espèce qui se croit supérieure à la vôtre? On devrait se poser plus de questions quand on va voir ces spectacles. Je vais vous lire le témoignage d'Annabelle T qui a été à Maryland. J'ai visité Maryland il y a une dizaine d'années pour y fêter l'anniversaire de ma fille. Je n'étais jamais allée dans ce type de parc auparavant. J'en ai gardé à la fois un bon souvenir, car les enfants étaient heureux de voir des animaux que l'on voit rarement ailleurs que dans les documentaires, et que le spectacle des orques les a émerveillés. Mais je me suis sentie mal à l'aise, notamment face à l'ours blanc. Le voir évoluer dans un si petit espace m'a rendu triste. Et j'ai immédiatement culpabilisé d'avoir choisi de me divertir grâce à des animaux en captivité. J'ai aussi été gênée par les panneaux pédagogiques sur la préservation des océans qui m'ont bien paru hypocrite. Je n'y suis jamais retournée.
Vu qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet, il est important de recueillir quelques témoignages.
Que pensez-vous de la fermeture du Marineland d'Antibes ?
Alors oui, j'ai entendu parler de ça. Alors moi, je suis allé quand j'étais petit et j'ai trouvé ça super. J'ai mené mes enfants aussi quand ils étaient petits et ils se sont régalés. Donc je pense que maintenant, plus personne pourra aller voir ces animaux-là puisque j'ai entendu dire qu'ils étaient... Enfin, il y avait des associations qui avaient œuvré pour fermer, mais que du coup, ces animaux, ils ne savaient pas trop qu'en faire, quoi. Du coup, ils auraient peut-être dû y réfléchir avant de le fermer. Ça aurait été peut-être bien, quoi.
Que pensez-vous de la captivité ?
Spontanément, j'ai envie de dire que je suis contre, parce que c'est pas le milieu naturel des animaux. Après, ça peut avoir comme avantage de protéger certains animaux qui sont en voie d'extinction. Et le fait de les avoir dans un zoo ou en captivité, ça permet de le permettre qu'ils se reproduisent. Donc de sauvegarder l'espèce.
Que pensez-vous de la fermeture du Marineland d'Antibes ?
Personnellement, je trouve que c'est une bonne chose. Parce que je suis bénévole dans une association pour la faune et la flore. Donc moi, je trouve que c'est une très bonne idée que cette structure ferme, que les animaux puissent retrouver une certaine liberté. Bon, après, on sait que c'est des animaux qui ont été enfermés de très longues années. Donc je pense qu'il va leur falloir une grande période d'adaptation pour retourner dans le milieu naturel. Mais moi, je valide.
Que pensez-vous de la fermeture du Marineland à Antibes ?
Eh bien, je crois que c'était une fermeture obligatoire. Il me semble qu'il y a une interdiction de garder des cétacés en captivité en France depuis quelque temps. Moi, je pense que c'est des animaux qui sont mieux en liberté. Mais par ailleurs, ils sont très menacés aussi en liberté. Donc, je suis un peu partagé parce que d'un côté, je trouve que c'est bien d'arrêter avec la captivité des cétacés et en même temps, je sais pas trop qu'est-ce qu'on peut faire de ces animaux qui sont nés en captivité. Donc.
Que pensez-vous de la fermeture du Marineland à Antibes ?
Un animal sauvage n'a pas sa place dans un bassin fermé, tant bien même qu'il soit stimulé avec des dresseurs, etc. Il ne sera jamais aussi heureux que dans son espace naturel.
Que pensez-vous de la captivité en général ? Que pensez-vous de la fermeture du Marineland à Antibes ?
Alors j'ai appris ça il y a quelques temps. Je ne sais pas si ça concerne que le Marineland d'Antibes. Peut-être que dans le monde entier, ça va être le cas. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est une très bonne chose parce que c'est d'une tristesse absolue de voir ces animaux comme dans un zoo d'ailleurs. Hein, mais les zoos, c'est un peu différent puisque souvent, ça sert aussi à la réintroduction d'espèces très menacées. Mais pour ce qui concerne les orques ou les dauphins qui ont l'habitude de parcourir des dizaines, voire des centaines de kilomètres en mer, les voir enfermés dans des espaces aussi restreints, je trouve ça assez difficile. Alors la question évidemment est, que va-t-on faire des animaux ? Vont-ils être acceptés quelque part ? Est-ce que c'est pour les enfermer dans un endroit, s'ils sont acceptés, est-ce qu'on va pouvoir les réintroduire dans la nature déjà ? Est-ce qu'ils vont pouvoir se débrouiller ?
Et que pensez-vous de la captivité en général ?
Ben, comme je disais, pour la captivité des animaux, pour ce qui concerne les Marineland comme pour les zoos, c'est toujours très difficile. Moi, j'ai toujours aimé, depuis petit, aller dans les zoos. Et en même temps, il amène toujours une grande tristesse de les voir dans des espaces aussi confinés.
On peut se rendre compte que malgré les avis partagés sur les zoos, il est nécessaire que l'on... respecte plus les animaux.
Merci Gabriel pour ta chronique. Et maintenant, une petite pause musicale. I don't know just how it happened. I let down my guard. Swore I'd never fall in love again. But I fell Guess I should have seen it coming. Caught me by surprise. Wasn't looking where I was going. I fell into your eyes. You came into my crazy world like a cool and cleansing rain. Before I knew what hit me, baby, you were flowing. Addicted to you. Yeah. C'était Addicted to You de Avicii. Vous êtes toujours à l'écoute de Fréquence Mistral dans l'émission Fast and Curious, proposée par les adolescents du CESAD. Maintenant, c'est au tour de Alicia avec un sujet passionnant. Peux-tu nous en dire plus ?
Bonjour Ashraf. Eh oui, je vais vous parler de la fast fashion.
Est-ce que les gens connaissent la fast fashion ?
Je vous propose d'écouter mon micro-trottoir sans plus tarder. Bonjour, je m'appelle Alicia. Que pensez-vous de la fast fashion ?
Qu'est-ce que c'est la fast fashion ?
La fast fashion, c'est le fait d'acheter des habits en grande quantité.
Oh, je suis un peu victime de la fast fashion, je pense, parce que j'ai beaucoup, beaucoup de fringues et j'adore les fringues. Donc j'en achète beaucoup, effectivement. Donc je suis plutôt consommateur de la fast fashion, d'après ce que je comprends.
Combien de vêtements achetez-vous par mois ?
Je sais pas, peut-être 3-4 par mois.
Est-ce que vous achetez des habits pas chers sur des ou chinois ?
Non, ça m'arrive jamais d'acheter sur Shein ou un truc comme ça, c'est ça ? Non, j'achète jamais sur ces sites-là. Je préfère acheter de la qualité. Et j'essaye de privilégier des fringues françaises ou européennes.
Que pensez-vous de la fast fashion ?
Alors moi, la fast fashion, c'est quelque chose dont j'entends parler depuis quelques années, mais plus jeune, j'en entendais pas parler. Et du coup, j'achetais beaucoup de choses sur les sites internet. Et maintenant, je fais gaffe à ma consommation de vêtements. Je récupère ou j'achète des choses de meilleure qualité et je les garde plus longtemps.
Combien de vêtements achetez-vous par mois ?
Ça dépend des mois, mais je dirais pas beaucoup. Hein. Je dirais un par mois pour faire une moyenne.
Alors la fast fashion, moi j'en suis relativement éloigné parce que j'achète rarement des habits. Quand j'en ai, bah, je les garde franchement assez longtemps. Et bah, ce que je pense de ça, c'est que évidemment chacun est libre de consommer comme il l'entend. Avec, c'est bien d'avoir conscience quand même que la fast fashion a des conséquences, notamment sur les droits humains et les problèmes environnementaux qui en découlent.
Combien de vêtements achetez-vous par mois ?
Alors par mois, je pense que ça se compte plus par année. Moi, généralement, on me les offre pour des Noëls ou des anniversaires. Je crois que les derniers vêtements que j'ai achetés de moi-même, c'était il y a 15 ans au Puce de Saint-Ouen, quand j'habitais encore à Paris. Donc, autant dire que je n'en achète, je suis à moins d'une par an.
Que pensez-vous de la fast fashion ?
C'est une bonne question, ça. On va dire que je suis mitigée. D'un côté, je peux apprécier parce que c'est un lieu de création. C'est un secteur de l'art et on peut y voir des très belles choses. Et en même temps, je trouve que le côté un peu plus négatif, c'est ça pousse le consommateur à consommer. Voilà, à toujours être dans la consommation de vêtements, de nouvelles choses.
La fast fashion, a priori, je suis contre, puisque c'est de la mode express, comme l'on dit, c'est-à-dire produire beaucoup de vêtements à bas prix pour des coûts vraiment minimes. Et ça implique souvent presque un esclavage des gens qui sont des ouvriers, parfois sont des enfants, qui fabriquent ces vêtements. Et puis ces vêtements si peu chers qu'il est difficile de croire qu'on puisse fabriquer des vêtements de bonne qualité. Et en plus, ça génère une pollution extrême.
Combien de vêtements achetez-vous par mois ?
Oula, par mois, je sais pas. Non, je dirais plutôt dans l'année. Pas tant que ça. Peut-être une dizaine de fois dans l'année, maximum. J'en suis même pas sûr.
Chers auditeurs, vous pouvez remarquer que certaines personnes ne connaissent pas la fast fashion. Et donc, je vais vous en dire plus. Pour ceux qui ne connaissent pas la fast fashion, c'est le fait de fabriquer des vêtements en grande quantité et de les vendre à bas prix. Les ouvriers et ouvrières fabricants pour la production de ces vêtements travaillent dans des conditions épouvantables. Ils ont des horaires interminables, des salaires de misère, des enfants y travaillent, ils sont exposés à des produits toxiques et les bâtiments sont insalubres. Les pays responsables de ce mouvement de fast fashion sont entre autres la Chine, l'Inde, le Bangladesh, le Vietnam, l'Indonésie, ou encore le Cambodge. le nombre de vêtements achetés par personne ces 20 dernières années a doublé. Les 4 produits les plus utilisés pour confectionner des vêtements sont le coton, le gaz, l'eau ou encore le pétrole. Maintenant, je vais vous parler de l'impact environnemental de la fast fashion et entre autres du parcours d'une pièce incontournable, le jean. Son voyage démarre en Inde pour le coton. Ce coton est envoyé au Pakistan pour être transformé en fil et être tissé. Ce tissage est ensuite expédié en Chine pour être teint. Celui-ci part en Tunisie pour être cousu et devenir un pantalon. Cela n'est pas fini. Ce jean brut part pour le Bangladesh pour être délavé, puis enfin être vendu en France. Il parcourt ainsi jusqu'à 65 000 km, soit une fois et demie le tour de la Terre. Pour info, on aura utilisé 7500 litres d'eau pour la fabrication du jean. Cela est énorme. D'ailleurs, les grandes marques connues pour la fast fashion sont Shein et Temu. Shein a ouvert une boutique à Paris, dans un endroit mythique, mais cela est un gros flop. Car ses vêtements sont plus chers que sur Internet, où nous les trouvons à 10 euros seulement. Ce site de vêtements propose 700 à 10 000 nouveaux articles par jour. Parlons maintenant de l'écologie. Il y a des solutions pour réduire l'impact naturel. Connaissiez-vous la slow fashion? C'est le fait de produire moins, mais mieux. Et donc avoir des vêtements équitables, de production locale, plus chers, mais de meilleure qualité. Aujourd'hui, il existe l'EcoScore, qui est une étiquette sur laquelle est inscrit un chiffre. Plus il est élevé, plus il pollue. Maintenant, je vais vous parler de ma vie avec les habits. De mon côté, je ne sais pas vraiment combien j'achète d'habits par mois. Cela dépend des saisons. Je dirais 1 à 4. Dès que mes habits ne me vont plus, je les vends sur Vinted, ou je les dépose dans une friperie. Fini ! Merci de m'avoir écouté. Au revoir.
Et nous venons d'écouter American Idiot by The Green Day. J'en profite pour voler le rôle d'animateur à Ashraf pour qu'il puisse présenter sa chronique.
Eh bien, restons sur le thème de l'Amérique avec ma chronique qui s'appelle « Le monde n'est pas un plateau de Monopoly ». Apparemment, tout le monde arrive quand Donald Trump a voulu acheter l'île du Groenland. On croyait que c'était une blague, mais depuis sa réélection, ce n'est plus une blague. La tension est montée récemment d'un cran. Il a nommé un envoyé spécial pour le Groenland. Il a menacé le Danemark et l'Union européenne de tarifs douaniers punitifs s'ils bloquaient la vente. Lors du sommet de Davos, il a déclaré « Tout ce que veulent les États-Unis, c'est un endroit appelé le Groenland, vous pouvez dire oui. » Il a promis de ne pas utiliser la force militaire, mais il existe toujours la propriété pour défendre la zone. Il voit la géopolitique comme de l'immobilier. Pour lui, acheter un territoire stratégique, historique, comme la Louisiane ou l'Alaska par le passé, le problème, c'est qu'on ne peut pas acheter la case Groenland comme on achète la rue de la paix au Monopoly. Il y a 57 000 habitants et un gouvernement autonome qui répète que le pays n'est pas à vendre. Le Danemark et l'Union européenne ont dû faire front commun pour lui dire stop. Il veut absolument ce territoire pour deux raisons. La première est économique, avec la guerre des métaux. Le sous-sol regorge de terres rares, indispensables pour les technologies futures. Il veut les sécuriser pour ne pas dépendre de la Chine. La deuxième raison est militaire. Avec le projet du Dôme Doré, il veut utiliser le Groenland pour installer un bouclier antimissile face à la Russie. Il affirme qu'il faut posséder le terrain pour pouvoir le défendre. Il a calmé le jeu il y a quelques semaines avec un accord cadre avec l'OTAN pour éviter la crise. En fin de compte, on ne joue pas au Monopoly avec des nations souveraines. Même la première puissance mondiale ne peut pas forcer une vente car le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est plus fort que le carnet de chèques. J'ai recueilli l'avis de quelques personnes pour voir leur réaction par rapport à cette tentative d'appropriation du Groenland. Bonjour monsieur, je voudrais vous poser quelques questions vis-à-vis de Donald Trump et son projet d'acheter le Groenland. Est-ce que vous êtes d'accord ?
Oui, d'accord.
Qu'est-ce que vous pensez du personnage en lui-même ?
J'ai l'impression que chaque jour, on a une nouvelle déclaration et événement improbable avec Donald Trump. Donc, je sais pas trop quoi en penser. J'ai l'impression qu'il est un peu fou, non ?
Oui, c'est clairement le cas. Une dernière question, je vais pas vous déranger plus longtemps. Qu'est-ce que vous pensez de la souveraineté du coup du pays ? Est-ce que vous pensez qu'elle est en danger ?
Oui, le Groenland. On a eu des exemples récents là dans l'histoire assez proche de souveraineté de pays qui n'ont pas été respectés. Comme je vous l'ai dit, chaque jour on en a une nouvelle et finalement c'est pas très étonnant. Je pense que c'est une partie du monde qui est convoitée aussi pour ses ressources et sa place stratégique, sa géographie stratégique. Bon, je pense que c'est quelqu'un de toute façon qui considère qu'on peut tout acheter, la loyauté, les pays, les identités. Donc finalement on n'est pas si étonné que ça. Mais je pense qu'il crée aussi beaucoup de chaos pour pas qu'on parle trop de sa personnalité, de ses affaires qui pourraient le rattraper.
J'aimerais vous poser quelques petites questions sur le Groenland et Donald Trump. Êtes-vous d'accord ?
Oui, absolument.
Pour commencer, que pensez-vous du personnage ?
Du personnage Donald Trump, il y aurait beaucoup à dire. En tout cas, ce qu'on peut constater, c'est qu'il ne respecte aucune règle, à part les siennes, c'est-à-dire uniquement la provocation, le combat et surtout le mensonge permanent, qui est une tactique, hein, qui est bien... Alors le plus inquiétant avec lui-même, c'est pas... Ce côté guignolesque qui le permet de faire n'importe quoi, c'est une façon aussi de cacher les affaires qui sont vraiment embarrassantes pour lui. C'est l'argent, en fait, qui est derrière tout ça. Ce sont les gens qui sont derrière lui, le plus inquiétant.
Et pour finir, qu'est-ce que vous pensez de la souveraineté de ce peuple ? Est-ce que vous pensez que c'est un danger ou un bien pour ce peuple autochtone ?
On parle du Groenland.
Oui, c'est bien ça, oui.
C'est tout à fait simple. C'est leur territoire, c'est chez eux, il n'y a absolument rien à dire. Tout ça a permis quand même à l'Europe de se rassembler un peu, d'avoir des réponses fermes. Les Européens ont été beaucoup plus fermes immédiatement pour ce qui concerne le Groenland qu'ils l'ont été au départ avec l'Ukraine. Mais tout ça est devenu un jeu politique, mais plus diplomatique. Voilà ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que Donald Trump a rayé complètement la diplomatie. Il n'y a plus de diplomatie. Il s'exprime avec une brutalité, comme il le ferait avec ses collaborateurs, avec des chefs d'État.
Bonjour madame, j'aimerais vous poser quelques petites questions sur le personnage de Donald Trump et son projet d'acheter le Groenland, êtes-vous d'accord ?
Oui, je suis d'accord.
Pour commencer, qu'est-ce que vous pensez rapidement du personnage ?
Alors cet homme m'est extrêmement antipathique et même, je dirais plus, il me terrifie un peu, il me fait peur. Et j'ai l'impression qu'on court à la catastrophe avec un homme comme ça, justement au pouvoir et à la tête des États-Unis, en plus, les États-Unis, quoi.
Et vis-à-vis de son projet d'acheter le Groenland, est-ce que vous pensez que son peuple est en danger ? Je parle du Groenland, ou vous pensez que c'est un bien pour le peuple autochtone ?
Alors je pense que le peuple est en danger, la démocratie est en danger. Voilà, c'est un cow-boy qui se permet tout, qui ne respecte pas autrui. Et donc voilà, à voir maintenant ce qui va se passer, puis à voir comment aussi sur la scène internationale, comment la scène internationale va réagir et va se positionner, parce qu'à un moment donné, à voir, mais j'espère que le Groenland gardera sa souveraineté.
Nous constatons que l'avis des personnes interrogées est très critique, ils ne sont pas favorables au projet du rachat du Groenland. C'est la fin de cette émission Fast and Curious. Retrouvez-la en podcast sur le site de la radio fréquencemistral.com.
Merci à l'équipe de Fréquence Mistral, Nathalie, Olivier et Max.
Nous remercions Mary Pock et Thomas Girard du CESAD.
Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés, ça fut un plaisir.
C'était trop bien, au revoir.